le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, c'est l'heure du magazine des Nations Unies. Tout de suite, les titres. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs a dit la communauté internationale déterminée à combattre les rebelles hutus rwandais présents sur le sol congolais. D'autres points ont été également débattus lors de cet échange avec la presse. C'est notre actualité de la semaine. 23 enfants sortis des groupes armés. L'opération a eu lieu au Katanga dans les territoires de Moba et Manono. Après leur identification par la MONUSCO, ce sera notre nouvelle de province. Enfin, notre invité, c'est Boubacar Diarra, représentant spécial de l'Union africaine au Burundi et dans les Grands Lacs. Notre invité a co-présidé la 7e réunion du comité technique d'appui de l'accord cadre sur la paix et la sécurité dans les Grands Lacs à Goma du 21 au 23 mai dernier.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mettre fin au FDLR constitue pour nous une priorité. Ces propos sont de Mary Robinson. Elle les a tenus lors de la téléconférence hebdomadaire des Nations Unies en marge de la 7e réunion du comité technique d'appui de l'accord cadre sur la paix et la sécurité. Autre point abordé au cours de cet échange, passeport et visa exigés désormais pour la traversée Kinshasa-Brazzaville et les tendances des violations des droits de l'homme en avril dernier. Jean-Pierre Elali Coco a assisté à cette conférence. Il nous en fait le compte-rendu.
La 7e réunion du comité d'appui technique pour la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix et la sécurité s'est tenue du 21 au 23 mai dernier à Goma, sous la présidence de Mme Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Intervenant par télévidéoconférence à partir de Goma, Mme Robinson parle des points à traiter.
C'est réuni 6 fois à Nairobi. Mais maintenant, c'est la première fois à Goma, on a la possibilité de visiter les camps pour les déplacés, les camps pour les DDA, et aussi d'examiner le progrès accompli au titre de la mise en œuvre du plan d'action régional, qui contient des engagements pris par les chefs d'État au janvier dernier, et notamment renforcer le mécanisme conjoint de vérification élargie, d'élaborer un plan pour une gestion commune des frontières, d'encourager la mise en œuvre des déclarations de dialogue de Kampala et d'examiner les mesures favorisant le retour sûr et volontaire des réfugiés et personnes déplacées.
La question des FDLR est posée. Elle embarrasse l'assistance. On a enregistré des progrès dans les cadres de l'accord cadre. Maintenant, il faut s'attaquer au FDLR, soutient l'envoyé spécial du Ban Ki-moon. Et dans la foulée, les journalistes reviennent à la charge. Faut-il continuer la traque des FDLR ou mettre la pression internationale sur Kigali en vue de créer un espace de dialogue inter-rwandais? Madame Robinson persiste et signe, les FDLR sont un groupe armé. Il faut donc les traiter comme tous les autres groupes armés.
Le gouvernement de Rwanda a reçu assez des FDLR et ça doit continuer. À mon avis, c'est nécessaire d'avoir une façon militaire contre les FDLR. C'est nécessaire de les adresser comme groupe armé. C'est ce que les chefs d'État dans la conférence de Grand Lac, dans la COCAD, ont dit plusieurs fois.
Autre point abordé, c'est la tension entre Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Ceci après l'expulsion des ressortissants du Congo-Kinshasa par les autorités de Brazzaville. Dernier rebondissement, Brazzaville impose les passeports pour la traversée du fleuve Congo. Réponse du berger à la bergère, Kinshasa impose à son tour les passeports et les visas aux ressortissants du Congo-Brazzaville. Mais le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, joue à l'apaisement. Pour lui, il faut dialoguer et cela n'est pas une faiblesse.
Que depuis le début de cette crise, nous avons organisé 6 missions importantes à Brazza. Et le Brazza en a organisé 2. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une faiblesse. Nous privilégions les dialogues et nous espérons que nous arriverons à des solutions. Le dernier développement est justement celui que vous venez d'évoquer, où on a vu nos compatriotes refoulés parce qu'ils n'avaient que les laisser passer, ce qui jusque-là était admis. On a exigé les passeports et les visas, mais tout de suite j'ai donné l'instruction à la DGM de faire autant. C'est ce que nous faisons aussi. Mais c'est une politique que nous n'aimons pas beaucoup. C'est vrai, dans la Bible, il est dit, quand vous recevez une gifle à gauche, donnez la joue droite. Mais quand on en reçoit deux, ça devient difficile d'en recevoir une troisième.
Enfin, la situation des droits de l'homme en RDC pour le mois d'avril. Scott Campbell, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits humains, indique que 232 cas de violations ont été enregistrés pendant cette période. Les présumés auteurs sont des agents étatiques, les FARDC et les groupes armés.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le PNUD appuie le gouvernement congolais dans le processus de la mise en œuvre de la décentralisation et de la gouvernance locale depuis 2008. Les plus grands obstacles auxquels ce processus est confronté sont l'insuffisance du cadre juridique, la non-organisation jusqu'à présent des élections locales et les difficultés de mobilisation des ressources, selon Nadia Turki. Nadia Turki dirige la section consolidation de la paix et renforcement de la démocratie au PNUD RDC. Elle décrypte pour nous ces concepts: décentralisation, gouvernance locale et leur enjeu dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Madame Nadia Turki, bonjour.
Bonjour.
L'appui à la décentralisation et la gouvernance locale figure en bonne place dans le programme pays du PNUD RDC pour la période 2013-2017. Commençons par là, pour les communs des mortels, comment vous définissez les concepts décentralisation et gouvernance locale?
Merci pour votre question. Effectivement, ça mérite une clarification. Pour la décentralisation, il y a plusieurs définitions, mais je dirais que la plus commune que l'on peut adopter pour notre propos, c'est celle qui consiste à définir la décentralisation comme l'exercice d'un transfert du pouvoir de l'État vers des personnes morales de droit public distinctes de lui-même. Donc, lorsqu'on parle de transfert de pouvoir de l'État, cela suppose une autonomie plus ou moins grande des structures auxquelles est dévolu ce pouvoir. Je dis plus ou moins grande puisque selon les pays, le degré de décentralisation n'est pas exactement le même. L'autre principe qui se pose à ces structures, c'est qu'elles disposent d'un budget propre. Malgré cette autonomie et de décision et de financement, il n'en reste pas moins que ces structures restent sous la surveillance de l'État, qui demeure l'autorité de tutelle et qui exerce son contrôle de légalité sur les actes qui sont pris par ces collectivités, ces structures au niveau local.
Et gouvernance locale?
Pour ce qui concerne la gouvernance locale, je vais me référer à la définition générale de ce qu'est la gouvernance. Si on peut, bien sûr, arrêter une définition de la gouvernance, tellement il y a de débats autour de cette définition. Mais je vais prendre la plus simple. Lorsqu'on parle de gouvernance, on parle d'un processus par lequel les sociétés gèrent leurs affaires publiques. Cette gestion, elle suppose le respect d'un certain nombre de principes, tels que la participation, la redevabilité, le consensus, la responsabilisation. Donc ça, c'est la définition de la gouvernance de manière générale. Et au niveau local, c'est l'application de ces mêmes principes à un niveau beaucoup plus réduit de la société et du pays.
Et d'après vous, quels sont les enjeux majeurs de la décentralisation et de la gouvernance locale?
L'enjeu principal de la décentralisation, c'est de rapprocher l'État du citoyen. Et cet enjeu est d'autant plus crucial que la RDC a un territoire immense et que l'exercice de l'État ne peut s'opérer uniquement au niveau central. Donc c'est vraiment l'idée que, à tous les échelons de la structure administrative de l'État congolais, le citoyen puisse se sentir soutenu par l'État, quel que soit le niveau auquel il s'exerce.
Non seulement soutenu, mais aussi impliqué dans son développement.
Exactement. Comme je disais tout à l'heure, parmi les principes qui prévalent dans la gouvernance locale, il y a le principe de participation et de redevabilité, les questions de responsabilisation et de consensus également. Donc cela implique une participation active des citoyens, soit individuellement, soit au travers des organisations de la société civile, pour faire émerger ces principes et qu'ils deviennent la règle dans le fonctionnement des communautés.
Cela étant, en quoi consiste concrètement l'appui du PNUD dans la mise en œuvre de la décentralisation et de la bonne gouvernance locale en RDC?
Alors l'appui du PNUD qui a démarré depuis le précédent programme qui était sur la période 2008-2012, nous sommes actuellement sur le cycle de programmation 2013-2017. Donc cet appui se situe à deux niveaux. Tout d'abord au niveau central, il a consisté à appuyer les structures nationales en charge de la mise en œuvre de la réforme de la décentralisation dans l'élaboration des outils législatifs, mais également des outils de mise en œuvre de ce processus de décentralisation. Donc c'est essentiellement un appui qui a été apporté à l'élaboration des textes, des principaux textes qui sont soit actuellement en examen, soit déjà adoptés, puisqu'il y a un certain nombre de textes qui ont déjà fait l'objet d'adoption. et aussi également tous les outils de mise en œuvre de la décentralisation, notamment ceux qui concernent la réforme des finances locales, aussi tout ce qui concerne le processus de planification du développement local. Donc il a fallu qu'il y ait un consensus autour de ces outils et un appui donc a été apporté aux structures nationales qui avaient la charge de produire toute cette matière. Le deuxième niveau d'intervention du PNUD, c'est au niveau local, où le PNUD est, a appuyé le processus de décentralisation dans trois provinces, le Nord Kivu, le Kasaï oriental et l'Équateur. Cet appui a consisté à fournir aux ETD la matière nécessaire à leur permettre justement d'être actifs dans la planification de leur développement. Donc cela a donné lieu à l'élaboration des plans de développement locaux. Nous avons appuyé plus de 25 ETD justement dans cet exercice. Il y a également la mise en place de cadres de concertation, car il ne suffit pas d'élaborer des plans, mais il faut que les principaux acteurs qui aient été impliqués dans l'élaboration de ces plans puissent en suivre la mise en œuvre et corriger les difficultés qui se posent au fur et à mesure de cette mise en œuvre. Cet appui a également consisté à renforcer les capacités locales, car il s'agit d'un exercice nouveau dans le pays. Donc il y avait un besoin énorme de renforcer les capacités aussi bien des autorités locales que des membres des organisations de la société civile, les associations des femmes, toutes les personnes susceptibles d'apporter leur pierre à la construction de cet édifice de la décentralisation pour le bien-être des populations à la base. Cet appui a été jusqu'à l'appui de construction d'infrastructures socio-économiques, comme des marchés, des abattoirs, des routes de desserte agricole qui permettent aux ETD de bénéficier donc de ces infrastructures et de pouvoir créer un tissu économique local qui va permettre également de financer des activités de plus grande envergure. L'une des activités phares aussi que nous avons aidé à appuyer, c'est la sensibilisation sur le civisme fiscal et qui a donné des résultats extrêmement intéressants dans les provinces dans lesquelles nous sommes intervenus, car dans les trois provinces dans lesquelles notre programme a été actif, on a enregistré des taux d'augmentation des recettes locales qui sont allés jusqu'à plus de 400%. Donc c'est un résultat très encourageant et qui montre qu'avec un minimum de sensibilisation et de renforcement de capacité, les citoyens à la base comprennent très bien les enjeux et sont prêts à mettre la main à la poche pour que les infrastructures soient mises en place et que le développement socio-économique devienne une réalité de leur zone d'intervention.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les difficultés rencontrées dans ce processus?
Alors, la difficulté, c'est justement l'insuffisance du cadre juridique. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de textes qui doivent être adoptés pour permettre d'impulser un réel mouvement de la décentralisation au niveau local. Il y a également le fait que jusqu'à présent, les élections locales n'ont pas pu être organisées. Donc ça aussi, c'est un écueil à la légitimation des acteurs qui doivent animer le processus de décentralisation à la base. Et bien sûr, la mobilisation de ressources qui demeure un enjeu majeur pour permettre d'accompagner cet effort du gouvernement congolais.
Madame Nadia Toki, merci.
Merci à vous.
Nous ouvrons cette page de nouvelles en bref par le processus électoral. Une semaine pédagogique au profit de la police nationale congolaise à Mbandaka. Du 15 au 22 mai dernier, il s'agissait en fait d'un séminaire organisé par la MONUSCO sur la sécurisation du processus électoral. Pendant une semaine, des hauts cadres de la PNC de la province de l'Équateur ont reçu des enseignements théoriques qu'ils seront chargés à leur tour de répercuter auprès de leurs collègues à la base et à l'intérieur de la province. Restons à la MONUSCO, cette fois-ci avec sa composante protection de l'enfant. Cette composante a documenté la semaine écoulée les cas de 15 enfants associés aux groupes armés. Ces enfants ont été recrutés par les Mai Mai Kifuafua, Raia Mutomboki, LRD, NDC Sheka, FPC AP, ADF et le groupe armé Maeli. Les victimes dont l'âge varie entre 9 et 17 ans ont été recrutées entre 2010 et 2014 en province orientale, au Nord Kivu et au Sud Kivu. Droits de l'homme, 232 violations des droits de l'homme ont été enregistrées au cours du mois d'avril dernier par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, ce qui fait une augmentation d'environ 23% par rapport au mois de mars.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le but de notre présence à Goma, c'est aussi d'emmener les autorités congolaises à proposer des projets concrets en faveur des populations locales qui seront soumis dans un rapport à la réunion du mécanisme régional à New York en septembre prochain. Ces propos ne sont pas de moi, mais ceux de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs et coprésident du comité d'appui technique à l'accord cadre d'Addis Abeba. Il les a tenus mercredi. L'ambassadeur malien Boubacar Diarra est notre invité. Il revient sur les acquis du processus et ce qui reste à faire pour le compte des populations locales. Il est au micro de Sifa Maguru.
Monsieur l'ambassadeur, bonjour.
Bonjour.
C'est pour la première fois que le comité d'appui technique se réunit en RDC et spécialement à Goma. Pouvons-nous savoir pourquoi le choix de la ville de Goma?
Oui, on a souhaité venir à Goma d'abord en RDC dans une démarche de meilleure appropriation par les États membres de l'accord de paix, de sécurité et de coopération, de leurs responsabilités quant à la nécessité de mettre en œuvre les engagements qu'ils ont contractés soit au niveau national, soit au niveau régional. Et nous avons décidé, la RD Congo ayant été le pays victime du conflit et Goma ayant été considéré comme l'épicentre de cette crise qui a surgi en novembre 2012, de venir à Goma pour premièrement marquer notre solidarité en tant que comité d'appui technique avec les autorités et les populations de Goma qui ont souffert le martyr et de permettre après cet exercice absolument important que nous ayons vraiment une vue extrêmement complète et large des activités, des projet que nous devrions soumettre à la réunion du mécanisme régional de suivi qui est prévu à New York en septembre prochain. Marie Robinson et moi avons été mandatés par les chefs d'État de produire un rapport sur la mise en œuvre de l'accord cadre. Et nous avons pensé qu'il fallait vraiment quitter Nairobi où nous nous réunissions régulièrement pour venir dans les différents pays et je pense que la RD Congo méritait d'être retenue comme premier pays que nous devrions visiter avant la réunion de septembre.
Alors comme vous êtes les coprésidents du comité, faites-nous un petit bilan sur les 6 premières réunions, le point sur le processus de paix depuis la signature de l'accord du 24 février jusqu'à ce jour.
Madame, vous vous souviendrez que l'accord a été signé le 24 février 2013 au sommet de l'Union africaine qui s'est tenu au mois de mai 2013 à Addis Abeba, le mécanisme régional de suivi formé à l'époque des 11 chefs d'État s'est réuni à Addis Abeba et a décidé de mettre en place un comité d'appui technique formé des représentants de haut niveau de chacun des chefs d'État pour assurer le suivi sur le terrain. Étant des chefs d'État, eux, ils donnent les indications, les grandes stratégies et nous, nous devons effectivement, en tant que haut représentants, travailler à la mise en œuvre de ces stratégies. Et donc, les chefs d'État ont accepté de mettre en place ce comité d'appui technique. Ça, c'est déjà au mois de mai 2013. Nous nous sommes réunis au mois de septembre 2013 à New York, où nous avons soumis notre plan de travail aux chefs d'État. Les chefs d'État l'ont accepté et ils nous ont demandé de nous réunir et de leur soumettre à leur prochaine réunion à Addis un plan d'action. Nous avons donc fait toutes ces réunions, de la deuxième à la cinquième, pour travailler d'abord, nous accorder entre nous, aux représentants des chefs d'État, sur le plan d'action. Ce plan d'action a été soumis à la réunion du 31 janvier 2014 à Addis Abeba. Et les chefs d'État, pour votre information, ont adopté notre plan d'action. Ça, c'était le plan d'action global sur l'ensemble des actions que nous devrions entreprendre en déclinant tous les engagements qui ont été adoptés par les chefs d'État. Mais nous nous sommes dit, les populations ont beaucoup souffert depuis cette guerre imposée par le mouvement rebelle M23 aux populations du Nord Kivu et à votre pays. Il fallait rapidement que les populations sentent les dividendes de la paix. Nous avons aussi, à l'intérieur de ce plan d'action, délimité 15 actions prioritaires qui auraient dû faire sentir aux populations le changement intervenu. Ces 15 actions prioritaires sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui, en particulier pour que vraiment nous puissions démontrer au chef d'État à la réunion de septembre 2014 que la mise en œuvre du plan d'action se passe au mieux de leurs souhaits et au mieux des intérêts des populations. Par exemple, nous avons souhaité au plan stratégique que le mécanisme de vérification établi par la CIRGL et qui est là pour régler les différentes frontières, que ce mécanisme soit réellement fonctionnel avant le mois de septembre. Au plan politique, nous nous sommes félicités de la défaite du M23. Bon, il ne faut pas seulement s'arrêter à la défaite militaire. Nous avons demandé à la RDC d'adopter une loi d'amnistie pour les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions politiques. Cette loi, vous le savez, a été promulguée le 11 février. Mais, vous le savez, il y a 1200 éléments du M23 qui sont en Ouganda. Nous avons 600 éléments du M23 qui sont au Rwanda. Si ces éléments-là, malgré la loi d'amnistie, ne sont pas... On n'essaie pas de voir s'ils sont éligibles à la loi d'amnistie et faire bénéficier ceux qui sont éligibles. Cela peut constituer un problème parce qu'ils seraient tentés peut-être de retourner encore dans la brousse et de recommencer le combat. Mais le plus important est aussi que les éléments de ce groupe armé qui voudraient bénéficier d'abord du retour dans leur pays, ce sont des Congolais qui doivent retourner dans leur pays. S'il n'y a pas une négociation avec le Rwanda et l'Ouganda pour qu'ils puissent revenir au Congo et puissent bénéficier d'un programme de DDR ou DDR3, cela aussi peut constituer un problème. Donc, nous avons fondamentalement cette question de l'amnistie, de la mise en œuvre de l'amnistie et de la mise en œuvre du programme de cantonnement, démobilisation et réinsertion des éléments des ex-rebelles dans notre calendrier de travail. Mais le plus important aussi est qu'on puisse détourner les jeunes de l'usage des armes. Et pour ça, il faut des projets d'intégration économique. Il faut que les femmes du Nord Kivu sentent les dividendes de la paix par la mise à leur disposition de projets économiques de réinsertion. Et nous sommes en train de travailler vraiment sur tous les plans avec l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux à ce qu'avant le mois de septembre, il y ait effectivement des projets que nous pourrions mettre à disposition des femmes du Nord Kivu. Il y a une conférence sur l'investissement privé à laquelle nous sommes en train de travailler et nous espérons que cette conférence sur l'investissement privé va venir compléter les actions déjà engagées par la Banque mondiale. Vous savez qu'au mois de mai 2013, le président de la Banque mondiale et le secrétaire général des Nations Unies sont venus dans votre pays, en Ouganda, au Rwanda, et ont fait une annonce d'investissement de 1 milliard de dollars. Bon, nous sommes en train de travailler à ce que tous ces projets économiques au profit des femmes de la région, des jeunes de la région, soient mis à exécution pour que vraiment il y ait une croissance économique qui définitivement dissuade les jeunes de recourir aux armes et fasse sentir du doigt aux femmes que la paix a effectivement un bienfait pour elles.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, peut-on parler plus d'une année après des progrès réalisés par un pays comme le Rwanda accusé de soutenir les forces négatives en RDC?
Question délicate. Mais vous savez, il est important qu'il y ait ce dialogue entre les deux pays sur la question des FDLR. La question est actuellement prise en charge par le président en exercice de la CIRGL, le président Dos Santos. Nous souhaitons que, à l'issue du partenariat et du dialogue qu'il a effectivement avec ses homologues de la RDC Congo et du Rwanda, que l'on puisse effectivement déboucher sur une solution acceptable.
Peut-être pour terminer, les perspectives envisagées à l'issue de cette réunion pour rendre efficace la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs.
En venant ici en RDC Congo, nous avons aussi souhaité que les autorités nationales nous donnent leur propre appréciation des meilleures stratégies pour faire durablement régner la paix et la stabilité et que nous les intégrions dans des plans d'action.
Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir répondu aux questions de Radio Okapi.
Notre nouvelle en province concerne la sortie mardi dernier d'une vingtaine d'enfants issus des groupes armés actifs dans la zone comprise entre les territoires de Moba et de Manono dans la province du Katanga. Le commandant de la 61e brigade des FARDC dit attendre un plus grand nombre des Maïmaï dans un proche avenir à Kalemi. François-Xavier Mibé.
C'est au total 23 enfants qui viennent d'être récupérés de groupe Katakatanga du chef Maïmaï Moulambo, un ancien lieutenant de Bakwanga proche de Gédéon Mutanga, actif dans les territoires de Manono. Le chef Maïmaï Oussama, qui est aussi proche de Moulambo, s'est dernièrement rendu au FRDC. Oussama a conduit 68 hommes, femmes, enfants et 18 dépendants. Ils sont tous arrivés à Kalemi après avoir effectué 3 vagues de reddition, dont la dernière remonte au mardi, dans le village de Kabuela à 130 km sur la Semoba à l'ouest de Kalemi. Tous ces combattants ont auparavant évolué comme groupe d'autodéfense populaire avant d'être versés dans les groupes Maïmaï Katakatanga de Bakwanga. Les 23 enfants, tous garçons, ont été recrutés entre 2012 et 2013. Le chef Maïmaï ont utilisé ces enfants comme combattants, cuisiniers, transporteurs et gardes du corps de chef Maïmaï Katakatanga. Tous ces enfants sont à présent encadrés au centre des transits et d'orientation que la CDJP organise pour assurer leur prise en charge sous financement de Poulet de Fente Academy. François-Xavier Mibé, Radio Capi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de la semaine concerne la présence des éleveurs Mbororo en province orientale et les efforts du gouvernement pour résoudre ce problème. Vous suivrez la réponse de Richard Mouyège, ministre de l'Intérieur.
Patrick Mbanga pour l'expression. Je pose ma question au ministre de l'Intérieur. La question sur le Mbororo pose beaucoup de problèmes dans la province orientale. Dernièrement, il y a eu même des députés nationaux qui ont adressé un mémo au gouvernement. Je le pense bien que vous avez déjà eu ces mémos-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre ministère?
Les Mbororo, ce sont des réfugiés climatiques. Et pour leur gestion, il y a des règles internationales. J'ai eu l'occasion de me rendre moi-même, dès le début de mon mandat, en tant que ministre de l'Intérieur, à Ango, où je me suis entretenu avec les Mbororo. La seule peur qu'il y avait est qu'il puisse s'agir des apatrides. Or, lors des contacts que j'ai eu avec les Mbororo, tous connaissaient leur nationalité, tous savaient d'où ils venaient et tous savaient par où passer pour rentrer. Et tous étaient d'accord de partir. Et dans ces règles, ce qu'il faut éviter, c'est de les chasser par la force. Il faut négocier et arriver à un départ volontaire, comme on le fait avec tous les réfugiés. Et je crois qu'il faut nous donner le temps de le faire, et nous sommes sur le dossier. Mais je n'ai jamais eu une lettre de Mbororo qui demandait de rester. Nous avons signé un PV où ils ont accepté de partir librement, et nous n'étions pas seuls, nous étions plusieurs partis, dont la MONUSCO, la société civile, les Mbororo et le gouvernement. Donc c'est une question, à mon avis, partiellement réglée.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Lydie Bettina Ipanga. Je suis célibataire. J'ai un fils de 2 ans et 8 mois. Il s'appelle David. Je l'embrasse d'ailleurs. Je suis licenciée en communication sociale des facultés catholiques de Kinshasa, option information et communication, et j'ai aussi un diplôme spécial de l'école supérieure de journalisme de Lille en France, dans la spécialisation journalisme multimédia, donc web et multimédia. J'ai la chance de travailler justement dans ce domaine au sein de Radio Okapi. Je fais partie de l'équipe qui se charge de mettre à jour ce site, les informations, les émissions, les sons, les audios, parfois les vidéos. C'est un travail que nous faisons avec plaisir. Avant de venir à Radio Capi, j'ai travaillé pendant un bref moment dans un parti politique dont je tairai le nom, comme secrétaire. Mais c'était très bref, juste après mes études. J'ai travaillé pendant 5 mois ou 6 mois. Ensuite, je suis directement venue à Radio Capi pour être journaliste web. Donc, on doit dire que j'ai directement commencé là. Et c'est pour ça que 3 ans plus tard, j'ai décidé d'aller me spécialiser toujours dans ce domaine parce que j'ai trouvé que c'était un domaine d'avenir. Le web, le multimédia, c'est un domaine qui n'est pas encore très développé ici. On a beaucoup de télévision, on a beaucoup de radio, mais des sites internet, d'informations, d'actualité. On peut dire que le site de Radio Capi, c'est le premier site ici d'actualité ici en RDC. Et je pense qu'on peut encore faire plus. Donc c'est un domaine d'avenir et j'ai choisi de me spécialiser donc dans le multimédia. J'ai eu l'occasion de faire des stages quand même dans des médias internationaux. J'ai été à l'AFP, l'agence France Presse. J'ai été dans un média régional français, lavoixdunord.fr, c'était toujours du multimédia. J'ai aussi participé à un projet quand même intéressant qui réunissait des jeunes Congolais, congoblog.net. On racontait un peu tout ce qui se passait en RDC. Il y avait des correspondants à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, à Kisangani, un peu partout. Voilà, donc depuis, après ma formation, je suis revenue à Radio Capi en 2011 et depuis, je suis là. Voilà. En ce qui concerne mon temps libre, je ne pratique pas beaucoup de sport, mais mon sport préféré, c'est le cyclisme. J'ai grandi à Boamanda pendant un moment avec mon père à l'Équateur, c'est une mission catholique. Et là-bas, on se déplaçait souvent à vélo, donc on m'a mis sur le vélo très jeune et jusqu'à aujourd'hui, c'est une passion quand j'en ai l'occasion. Et j'aime aussi la natation. Bon, je sais pas très bien nager, mais j'aimerais m'améliorer dans ce domaine. Bon, la musique, j'ai des goûts un peu difficiles, on va dire, un peu difficiles. Mais j'écoute quand même de la musique, du gospel surtout, que j'aime beaucoup. Et j'ai eu la chance quand même d'être dans des chorales, d'apprendre à chanter dans les chœurs.
Oh là là, je sais pas, il n'y a rien qui arrive pour chanter là. Alors, qu'est-ce que je compte faire dans l'avenir? Je pense que le domaine du multimédia est très prometteur ici en RDC. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se faire. Pourquoi pas créer mon entreprise qui est de promotion sur le multimédia. Je pense à une agence pour la création de l'image des entreprises, des personnes, personnalités politiques sur le web. Donc c'est des possibilités comme ça dans le domaine du web. Et moi un jour j'aimerais répondre, à donner des solutions à ce genre de problème. Merci beaucoup.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Retenez quelques rendez-vous du calendrier des Nations Unies pour cette dernière semaine du mois de mai. Du 27 au 28 mai, l'UNESCO accueillera en son siège à Paris le premier forum européen sur les médias et la maîtrise de l'information. Une conférence organisée avec la Commission européenne et l'Université autonome de Barcelone dans le cadre de l'Alliance mondiale des partenaires de l'éducation aux médias et à l'information. Autre rendez-vous à retenir, le 29 mai de chaque année, c'est la journée internationale des casques bleus. La MONUSCO se prépare comme toujours à célébrer cette journée et le magazine des Nations Unies couvrira les manifestations relatives à cette journée pour vous informer. Fin de cette émission. Un grand merci de nous avoir suivis de la part de Nikon Gak à la supervision, Jean-Pierre Elali Coco à la coordination et Honoré Missinger Portage, Jean-Claude Ntiala à la régie et moi, Mila Kimbuni à la présentation. Une émission à réécouter sur notre site internet radiokapi.net. Au revoir.